France Musique. Muraro au piano. Roger Muraro.
Chers amis, c'est l'heure de l'intimité et des confidences. Et comme toute confidence vient au gré des souvenirs, ne m'en veuillez pas des allers-retours que je pourrais faire dans la chronologie de mes aventures. Parler de mes sciences, pour moi, c'est avant tout évoquer une expérience hors du commun. J'ai eu le privilège de côtoyer le compositeur à l'occasion de voyages, de tournées, et j'ai pu partager quelques moments plus intimes durant les vacances d'été. C'est aussi parler d'Yvonne Loriot, l'immense interprète, la maîtresse-femme qui a tout organisé pour que son mari puisse travailler librement, Yvonne Loriot, qui fut ma professeure de nombreuses années. J'étais jeune, 18 ans. Je n'avais que quelques années de piano. Mais si on était là, je pouvais l'approcher, j'étais à quelques pas de lui. J'apprenais tout et rien. Je n'avais pas à l'esprit de questions que j'aurais pu poser. Et puis, quelles questions ? Sa musique est claire. Mon Messian, que je déclinerai en deux volets, c'est un certain regard qui pourrait instruire certaines jeunes générations. Oui. Je regardais, étonné que le compositeur goûte son poisson avec lenteur, face à Loriot qui avait déjà terminé son assiette de fromage et apportait le dessert. Le sphinx et l'oiseau. Il était calme, elle pépillait. Il parlait lentement, elle parlait vite. Il était posé, elle bondissait. De ces moments où j'ai pu observer le couple Messian, un charme étrange a opéré, entretenu bien sûr par le mystère de l'œuvre de Messian, mystère qui révélait sa foi, sa croyance en les écritures, les chants d'oiseaux. Et je n'oublie pas son orgue cavaillé-colle de l'église de la Trinité à Paris, aux sonorités douces, intimes, que Messian avait progressivement aménagées par l'ajout de jeux qu'il exploitait pour ses œuvres. Il y a tant de manières d'entrer dans l'univers d'un compositeur. Messiaen, comme les autres, laisse la porte ouverte aux interprètes. Il était contemplatif. Il suggérait pourtant de souligner tout ce qui rend une interprétation vivante. Aller au-delà par les nuances, les dynamiques, j'y reviendrai. Mais avant cela, je voulais dire qu'après 40 années passées à jouer cette œuvre, en avoir bu la coupe jusqu'à la lie, j'ai décidé de mettre de longs points de suspension à l'interprétation de sa musique. Non sans tristesse, je puis vous le dire. On ne s'éloigne pas ainsi de ce qui a été le ferment d'une vie. J'aime cette œuvre, les symboles qu'elle véhicule, la nature qu'elle évoque, la contemplation sereine qu'elle provoque. Est-ce que mes premiers émois au contact de l'harmonium de mon village y sont pour quelque chose? La résonance des accords sous les voûtes, l'histoire évoquée par les tableaux dans les églises? Bon, de toute façon, en matière d'expression artistique, à l'époque, je n'avais que cela sous les yeux. Bref, j'ai découvert Messiaen avec les visions de la Maine pour deux pianos et j'avais alors 16 ans. C'était à l'occasion d'un concert d'élèves au Conservatoire de Lyon où je jouais l'un des deux pianos. On joue bien Messiaen quand on le découvre, et cela devient une passion. Sa musique est archaïque et moderne à la fois, facilement compréhensible, convenant aux naïfs comme aux penseurs. Tout est écrit, les images parlent, c'est beau. Je n'ai probablement jamais joué aussi bien Messiaen qu'à mes débuts. La difficulté est de rester dans cet état d'esprit, dans la minéralité des blocs sonores, la lumière qui émane de ses accords, de ses chants. Très vite, après 1988 et les premiers concerts avec son œuvre, je voyais mentalement différemment les images fixées par le compositeur. Les tableaux s'animaient, les acteurs prenaient vie dans le théâtre de l'immensité. Dans les 20 regards sur l'enfant Jésus, où se situe l'œil ? Qu'est-ce que l'œil ? Quoi regarder dans les étoiles ? L'enfant Jésus, la Vierge, le Père. Imaginez-vous un seul instant le regard du Père, celui de Dieu ? Quelle folie ! Et les créatures immatérielles telles que le temps, le silence, pouvez-vous réaliser ce que signifie une musique qui retraduit le temps, une musique qui exprime un regard contemplant le silence ? Thank you. Pouvons-nous seulement matérialiser ce qui ne peut l'être, peut-être par les symboles, en donner une signification, un contenu? Voici la réponse que je m'étais trouvée pour mieux interpréter cette musique. Et c'est toute la force de la musique de Messiaen. Elle peut être jouée religieusement, symboliquement ou même en profane, comme une œuvre de concert à l'image d'une sonate romantique. Malgré moi, tout au long de ces années passées, mon interprétation a évolué pour devenir mon histoire. Messiaen, dans sa grande clémence, semblait tout accepter. Il faut dire que j'ai la faculté de tenir en haleine des concerts avec le catalogue d'oiseaux qui représente un programme de 2h45 de musique, les 20 regards sur l'enfant Jésus, 2h05 de musique. Cela implique une énergie dingue, sans baisser pavillon, et le public généralement me suit. L'œuvre est palpable, concrète, elle devient un parcours initiatique. Ce n'est plus de la musique, mais autre chose que je raconte. La Vierge accouche d'un enfant, l'esprit de joie entre dans une danse tribale, mystique et enfiévrée. Ma nature a pris Messiaen à contre-pied, Loriot adorait, et Messiaen me poussait à continuer. Je le dis sans fausse modestie ni fierté, c'était ainsi. Tenez cet exemple. Je jouais les 20 regards à Linz, en Autriche. Messiaen et Loriot étaient présents. C'était mon troisième concert de cette œuvre face au compositeur qui avait la partition sur les genoux. Saviez-vous que Messiaen lisait toujours les partitions de ses œuvres en concert car il avait toujours la crainte d'une mauvaise réaction du public? Il ne voulait pas voir ça. Bref, Lors de ce concert à Linz, j'en suis au 18e regard, le regard de l'onction terrible. C'est presque la fin de l'ouvrage, avec 2 heures de musique dans les pattes et dans la tête, de quoi montrer quelques signes de fatigue. Dans un excès d'énergie, j'ai cassé la corde do dièse au médium aigu, celui-là. Dans ce déluge de notes double forte, personne, pas même moi, n'avait entendu que la corde avait cassé. Mais quand a commencé le 19e regard, je dors mais mon cœur veille, dans la nuance pianissimo sur des accords où le do dièse est omniprésent, bruit bizarre, zwing, 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 j'ai compris tout de suite. Il a fallu m'adapter. Jouer un autre do dièse quand c'était possible. Et dans le regard numéro 20, le dernier du cycle, ce fameux do dièse revient incessamment dans le grand choral de la fin. Il revient comme une volée de cloches triple forte. J'étais coincé. Le do dièse ne marchant pas, j'ai modifié le texte en jonglant avec les do dièses à l'octave au-dessous et les suraigus pour garder coûte que coûte l'effet brillant et l'exaltation du regard de l'église d'amour, le titre de ce 20e regard. Le concert se termine. Loriot s'approche, inquiète. Mon petit chou, c'était très très bien, mais bon, que s'est-il passé? Il faut revoir ta mémoire. Alors je lui montre le trophée, la corde cassée. Elle reste abasourdie, admirative. Mais comment as-tu fait? Messian, toujours 50 pas derrière, arrive plus lentement à ce moment-là sur la scène. Je lui explique l'affaire. Oh, mais j'ai trouvé ça très joli. La messe était dite. Loriot avait été l'élève de Messiaen au conservatoire. En 1941, Mademoiselle Loriot, comme il l'appelait alors, était fascinée par le maître. Un jour, voulant symboliquement lui déclarer sa flamme, elle avait mis à profit un devoir d'écriture, un chant donné à harmoniser dans le style d'un choral de Bach. Il s'agit d'un exercice d'harmonie, ni plus ni moins. À quatre voix, elle avait écrit la partie d'un ténor très affectueux, avec des intervalles chantant dans le style des airs italiens. Bon, Messiaen, toujours très gentil, est resté, dubitatif, en tout cas ne comprenant pas du tout l'allusion. Et il avait entouré au crayon cette partie, cette voix de ténor, et il avait noté dans la marge « hors saison ». La pauvre Loriot en avait été toute chagrinée. Après-guerre, Messiaen entre dans une période douloureuse. Sa femme, la violoniste et compositrice Claire Delbos, souffrait de troubles mentaux. Le fils Pascal n'était pas assez entouré de ses parents, car Messiaen voyageait déjà beaucoup. Mais Yvonne Loriot était là, patiente, aidant Messiaen dans ses soucis. D'ailleurs, Yvonne Loriot était tenace, très tenace. Dans sa tête, Messiaen sera son homme, Messiaen et personne d'autre. Pendant de nombreuses années, plus d'une fois, Loriot prendra le rôle d'éducatrice pour l'enfant, avec les difficultés que cela incombe. Mais avant cela, il y eut la vraie déclaration sur un banc en face des Galeries Lafayette. Oh, c'était très pudique. Loriot avait pris la main de Messiaen, l'avait posée sur son cœur. C'était autour des années 43-44. Tout était dit, mais bien sûr, rien n'était consommé. La première mélodie du cycle Haraoui en témoigne.
C'est l'été sur France Musique. Muraro au piano. Roger Muraro.
changement de décor. Petit Chai est un hameau de Saint-Théoffrey, au bord des lacs de Laffrey, au pied de la montagne du Grand Serre, le long de la route Napoléon. Messiaen, en 1936, avait acheté un terrain au bord du lac et fait construire une maisonnette toute simple. Il s'y réfugiait pour composer. Sans grand confort, les fenêtres donnaient toutefois sur le lac et la montagne. Les frênes, les arbustes y sont toujours le refuge des merles, pinsons, fauvettes, chardonnerets. Haut dans le ciel, les alouettes, dans les buissons, le rossignol. On peut encore entendre le bruant jaune en plein soleil de midi, l'été. Le loriot, l'oiseau, semble avoir émigré. Sur les berges du lac se promène encore la bergeronnette. Et en automne, tôt le matin, on entend le chant triste et déclamé de la griffe d'reine. Une rousserolle dans les roseaux du lac. Ce sont aussi les rapaces, hiboux, grand-ducs, chouettulottes, le vol des buses qui se disputent une proie avec les pies. Les couleurs des paysages de Petit Chai sont un enchantement. Le ciel se reflète sur le lac, gris, bleu, vert émeraude parfois, et quand le soleil se couche à l'occident, la montagne pelée à l'est revêt les couleurs roses jusqu'au pourpre à la nuit tombante. Il y a souvent du vent, il fait assez frais. La maison n'avait pas le grand confort moderne. Il a fallu attendre l'arrivée officielle d'Yvonne Loriot, épouse Madame Messiaen autour des années 1963, pour installer l'eau courante et quelques années encore pour brancher le téléphone. Dans cette maison assez spartiate, Loriot s'occupait de beaucoup de choses. Cuisine, ménage, aidé parfois par une personne pour la popote et un jardinier pour l'entretien du grand parc qui a un accès direct au lac de Laffrey. C'est un peu de la musique du lac de Laffrey que l'on entend, lac noté dans l'immense fauvette des jardins. Pour permettre à Yvonne Loriot de travailler son piano sans déranger le maître qui composait à sa table, il avait été aménagé une sorte de chalet en haut du pré en pente qui conduisait à la maison Messian en contrebas. Quand venait l'heure des repas, le couple communiquait par talkie-walkie. « Allô Messian, il est l'heure de déjeuner !» Le temps au compositeur de terminer l'écriture d'une strophe, Loriot installait la table sur le perron à l'extérieur, faisait réchauffer les plats et le repas simple était servi. Poisson souvent, presque jamais de viande. Des légumes frais du jardin à côté, des fromages, quelques pâtisseries qu'ils aimaient tous les deux, des pâtes de fruits notamment. Le dimanche matin était jour de fête. C'était la messe. La messe à Lamure, petite ville à une dizaine de kilomètres, ou quelquefois à Saint-Théoffrey avec le père Gaillard, ce père Gaillard qui ne cessait de répéter « On n'entre pas au paradis dans un fauteuil ». Le couple arrivait en avance car Messian voulait lire le missel et méditer sur ses mystères avant l'office. Dans les années autour de 1986-88, je les accompagnais. Souvent, je restais au fond de l'église. car j'avoue avoir eu des réticences à avaler l'hostie. Puis venait le déjeuner dominical, et la semaine recommençait. Des journées entières au travail. Messiaen écrivait, Loriot relisait les premières épreuves éditées. Entre deux relectures, elle réchauffait au piano trois ou quatre concertos de Mozart, et puis elle répondait à quelques courriers. On écoute un peu du concerto de Mozart que j'aime. En sol majeur, Loriot au piano, Boulez à la direction. Sans en avoir été témoin, je sais que de l'été jusqu'à la fin octobre parfois, Messiaen nageait. La photo est cocasse de Messiaen tenant remonté comme il pouvait un maillot de bain détrempé qui avait tout d'une couche culotte mal tricotée. Et puis, Messiaen avait de l'humour. Enfin, il fallait s'en apercevoir. Il m'arrivait de lui raconter une histoire cocasse que j'avais vécue et s'en amusait. Et il le manifestait par un sourire discret. Mais je lui racontais un jour la petite blague qui courait à son sujet. Messiaen est assis sous un arbre et note studieusement en dictée le chant d'un merle. L'oiseau, sur sa branche, intrigué, se rapproche timidement et se penche sur l'épaule de Messiaen. Surprise. Il lit, mais d'une voix impatiente, il dit au compositeur « Bon, encore une fois, mais après j'enchaîne ». Messiaen a éclaté de rire. Éclaté, pensez-vous. Le dos appuyé sur sa chaise, sa tête s'est renversée. Il a ouvert grand la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Grande manifestation de joie, Messiaen riait en silence. Je reviens aux années 1952-53. Ce fut le début d'une vie de folie. Les voyages pour noter les chants d'oiseaux, des concerts à deux pianos par le couple Messiaen-Loriot, le tour du monde pour des conférences et des concerts, les commandes d'œuvres qui s'enchaînaient, tout le monde voulait du Messiaen. Mais comment en est-il arrivé là? Ce n'est pas une révélation. La musique de Messiaen est reconnaissable autant que Chopin, Mozart ou le clair de lune de Debussy. Comment a-t-il organisé son vocabulaire? Messiaen tout jeune avait été ébloui par les lumières et les couleurs des vitraux de la Sainte-Chapelle. Des sons s'imposaient à lui en réaction aux couleurs qu'il voyait, et inversement, certaines musiques provoquaient des couleurs qu'il voyait intellectuellement. Rien de tout cela n'est vérifiable scientifiquement. La médecine à l'époque cataloguait cela comme une forme de dérèglement du nerf optique. Bon, en tout cas, c'était pour Messiaen un don de synesthésie. Messiaen a dû ordonner ses visions sonores, car ce n'était pas un seul son qu'il entendait, mais des agrégats sonores. Pour les couleurs, tout le monde peut en faire l'expérience. Baissez rapidement les paupières, concentrez-vous, vous verrez des couleurs tourbillonnantes, des points de toutes les couleurs, des cercles. Certaines vérités sont communes à chacun de nous. Les couleurs complémentaires, par exemple, le vert et le rouge. Si l'on observe attentivement, le vert et le rouge ont une nette ligne de démarcation, un filet noir. Votre expérience chez l'ophtalmo vous le confirmera. Un blanc paraît encore plus blanc quand il est juxtaposé ou entouré d'un noir profond. Le chromatisme indéfinissable des couleurs de l'arc-en-ciel est perceptible par tous et provoque diverses émotions. Chez Messiaen, cela se transformait en sonorités multiples. Il a dû patiemment noter ses rapports sans couleurs qui lui sont personnels. Pour étayer ce propos, je me souviens d'un soir, à la veille de mon retour de vacances à Petit-Chêne, j'étais allé saluer le couple Messiaen que je quittais pour un certain temps. Loriot m'attendait, c'était un peu avant 20h, je logeais dans le chalet du haut, bien entendu, et en descendant le pré pour me rendre à la maison Messiaen en contrebas, j'avais vu les couleurs roses splendides de la montagne éclairées par le soleil couchant. Certains oiseaux chantaient, merles, pinsons, enfin, toute la fauvette des jardins, son œuvre majeure pour piano seul, toute la fauvette des jardins était là devant mes yeux, devant mes oreilles. J'arrive, un peu sensibilisé par ce spectacle, et je dis à Messiaen, « Maître, maître, la montagne est rose. » Messiaen se lève de sa table de travail et regarde émerveillé par la fenêtre. « Rose, oh non, pas seulement. Il y a du gris teinté de violet pourpre. » Et les sapins font une tache plus sombre verte bleutée. Je n'en dirai pas plus pour ne pas faire d'erreur. J'ai regardé mieux. Entre-temps, Messiaen avait ouvert la fenêtre. Les oiseaux chantaient. Quand soudainement l'horreur. La fanfare du village se mit à jouer. Taritata, taritapouette, zim boum boum. On était le 13 juillet. Et le bal allait commencer. si vous aviez vu la mine déconfite de Messian. Oh, c'était discret. La lumière qui émanait de ses yeux s'est éteinte, et d'un rictus de la bouche, j'ai vu le dépit. C'était tellement incongru cette fanfare que c'en était drôle. Après les œuvres de jeunesse, par exemple les préludes pour piano dédiées à Henriette Puigroger, sa première œuvre composée à 20 ans en 1928. Après un thème et variations pour violon et piano, cadeau de mariage à Claire Delbos, Messiaen a essentiellement composé des œuvres à caractère religieux. Je ne les énumère pas toutes. Le Quatuor pour la fin du temps, œuvre majeure de musique de chambre écrite pendant la guerre, ce quatuor rassemble un piano, une clarinette, un violon et le violoncelle. Il a été composé en grande partie durant la captivité de Messiaen dans le camp de travail de Görlitz à la frontière germano-polonaise. Un officier SS, amateur de musique, avait remarqué la présence de cet homme étrange et effacé. Il lui a fourni du papier à musique et de quoi écrire. Pour composer en silence, lire les quelques partitions que Messiaen avait pu apporter dans ce camp de travail, le compositeur s'enfermait dans les latrines. Maintenant, et depuis quelques années déjà, dans ce camp de Görlitz, on commémore l'événement par un concert en janvier, date de création de l'œuvre dans ce camp. J'ai eu l'occasion de jouer là-bas. C'était sous une toile de tente qui était chauffée par une soufflerie bruyante, une soufflerie que l'on coupait lors du concert. Il faisait moins 5 degrés à l'extérieur et bien chauffé, tout juste 14 à l'intérieur. Le lieu, ce camp est désolant et terrible à la fois. Derrière une séparation barbelée, il y a un mirador qui surveillait le camp d'extermination. Bon, je ne m'étendrai pas sur l'impression que l'on ressent à jouer là-bas. Je mesure simplement les conditions de l'existence qui ont donné naissance à cette œuvre. Les visions apocalyptiques colorées et de profonde inspiration, ces visions ont porté le compositeur au sommet de la notoriété. La dernière louange, par exemple, nous prend dans ses bras. Et c'est une ascension infinie, une émotion qui nous empoigne. Thank you.
Muraro au piano. C'est l'été sur France Musique. Roger Muraro.
Parmi les œuvres à caractère religieux, je cite aussi l'Ascension pour orgue, les Visions de la Maine pour deux pianos de 1943, dont certains critiques avaient mal compris le titre en supposant qu'il s'agissait des Visions de l'amant. Bon, je vous le demande. Les trois petites liturgies de la présence divine pour petit orchestre, chœur de femmes, piano solo et onde Martenot solo, grand succès pour un large public d'ailleurs. Les 20 regards sur l'enfant Jésus, bien sûr, en 1944. La spectaculaire Turangalila Symphonie, où Messiaen confie un rôle exceptionnel au piano solo, comme à l'onde Martenot. L'onde Martenot, l'instrument qui retraduit le mieux la musique du surnaturel. Et on écoute un extrait du dernier Tutti de Turangalila, dans la version d'Ozawa, avec Yvonne Loriot au piano, bien sûr, et Jeanne Loriot à l'onde Martenot. Après-guerre, Messiaen entame une période trouble. Ses cours au conservatoire le confrontaient à des étudiants avides de nouvelles techniques. Puis, l'intelligence supérieure de Pierre Boulez provoquait quelques remous. L'école de Vienne, vous savez, cette école qui donne naissance à la musique sérielle, cette école de Vienne était mal connue. Et pourtant, la musique sérielle faisait déjà des ravages. Messiaen a voulu comprendre. Les quatre études de rythme sont nées de cette période expérimentale pour le compositeur. Tous les intellectuels s'y sont engouffrés, ont loué cette œuvre. Et pourtant, Messiaen les considérait sans grande valeur musicale. Je tiens cette information de Messiaen lui-même. Je ne serai pas à même de porter un jugement. Toujours est-il que Messiaen n'y voyait qu'un chemin sans issue. Mode de valeur et d'intensité, la seconde des quatre études de rythme englobe toutes les sérialités possibles. Une série, c'est une succession de notes dans un ordre pré-choisi. L'œuvre s'articule par cette succession. Donc, Messiaen a réussi à développer plusieurs séries simultanément. À chaque note correspondait une série de nuances, à un accent particulier, à une tessiture spécifique. Tous les symboles musicaux ont été assemblés et ont été prétexte à plusieurs séries simultanées. En quelque sorte, une série surdimensionnée. Mais si on ne pouvait pas aller plus loin sur ce chemin, il a fermé cette parenthèse. Et nous écoutons Yvonne Loriot dans cette courte étude « Mode de valeur et d'intensité ». Dans le catalogue des œuvres de Messiaen, l'ornithologie a pris le relais dans les années 50. Son goût pour la nature, le chant improvisé des oiseaux, toutes ces notions sont autant de métaphores d'un langage divin qui ont été les sources d'inspiration ayant conduit Messiaen jusqu'aux synthèses religieuses et naturelles qu'on trouve dans son opéra Saint-François d'Assise et même encore dans Les éclairs sur l'au-delà, son œuvre ultime qu'il n'a jamais entendu.
Entends cette musique qui suspend la vie aux échelles.
Messiaen avait déjà noté quelques chants d'oiseaux avant de se plonger vraiment dans cet univers. Mais tout restait à faire, bien sûr. La multiplicité des espèces, de leurs chants, les improvisations de ces créatures, la couleur de leur plumage, des habitats de chacun d'eux. Parce que l'oiseau mâle, surtout, chante pour séduire la femelle au printemps. C'est la saison des amours où les chants sont les plus beaux. Il faut se lever tôt le matin pour les écouter, sans même prendre le temps d'un petit déjeuner, bien sûr. Alors, pour noter ces oiseaux, Yvonne Loriot, bien sûr, munie d'un magnétophone à cassette, accompagne Messiaen et enregistre par précaution les chants que le compositeur s'active à noter en dictée, et puis à noter à toute vitesse. L'oiseau ne se répète pas. Alors Messiaen note des sigles, une sorte de sténo musical, et comme le compositeur a une mémoire phénoménale, il peut noter le chant qu'il a entendu, tout en gardant en mémoire celui qui continue. Et grâce à l'enregistrement d'Yvonne, la pauvre Yvonne qui m'a décrit combien de fois elle s'était fatiguée les bras à force de tenir le micro levé des heures entières des 4 heures du matin, bref, grâce au micro d'Yvonne, le son de la nature est ainsi capté au lever du soleil quand les oiseaux chantent le mieux. Et parfois, quand ils ne chantent pas, dans un moment de silence, Messiaen note en marge les couleurs du paysage, dessine un arbre, une montagne. Le catalogue d'oiseaux est né de ces notations dans la France entière. Ce catalogue d'oiseaux de Messiaen, ce qu'il contient d'émotions liées aux impressions ressenties face au spectacle de la nature, mais comment ne pas réaliser l'importance de ces témoignages aujourd'hui, spécialement où l'écologie et la faune sont en danger. Derrière cette symphonie d'oiseaux au printemps, nous entendons un extrait des oiseaux exotiques, enregistré par Yvonne Loriot, bien sûr, l'ensemble intercontemporain sous la baguette de Pierre Boulez. Thank you. Nous avions entendu un court extrait des oiseaux exotiques dans la version de Pierre Boulez avec l'ensemble intercontemporain et bien sûr, Yvonne Loriot était au piano. Ce premier volet Messiaen se termine, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'ai encore tant à raconter pour ce voyage initiatique dans l'œuvre de Messiaen. Ce premier volet Messiaen est réalisé avec le précieux concours de la salle Cortot de l'École normale supérieure de musique de Paris. L'équipe du jour était composée de Julien Bourdet, Tanguy Le Corneau à la prise de son, Xavier Carrère attaché de production et Max James à la réalisation. Vous pouvez retrouver le détail de la programmation musicale sur la page de l'émission Muraro Piano. Vous pouvez également réécouter et télécharger cette émission sur le site francemusique.fr et sur l'application Radio France. Je vous dis à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.